Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Dans un message adressé aux musulmans du monde entier vendredi 12 avril, à l'occasion de la fin du Ramadan, le pape a imploré la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. L'actualité de l'Église nous conduira également au Kenya et en République démocratique du Congo. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne le Mali, le Niger et le Togo. La deuxième partie de ce programme est dédiée à l'invité du jour, M. Abou Kamaté, directeur du MASA en Côte d'Ivoire. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Et cette actualité de l'Église concerne d'abord la semaine du pape présentée par Jacques Ngol.
Parmi ses audiences, samedi, le pape François a reçu le mouvement scout catholique italien à l'occasion du 70e anniversaire de sa fondation et s'est attardé sur l'hiver démographique, sur l'engagement à construire une société juste et pacifique et sur la protection de l'environnement. Dans un monde d'armes et de peu de naissances, nous travaillons pour la dignité de la vie, leur a-t-il dit, les encourageant à continuer à être une communauté ouverte et attentive, prête à accueillir, écouter et accompagner son prochain, prophétique dans l'annonce courageuse de l'évangile et désireuse de sortir de son propre cercle pour rencontrer les autres. Le pape a également reçu en audience les maires des 15 villes espagnoles déclarées patrimoine mondial par l'UNESCO. L'intérêt pour la beauté d'un tissu urbain ne peut se limiter à la sphère artistico-culturelle, mais doit avoir une perspective plus large, embrassant l'intégrité de la personne qui reçoit ce patrimoine et des peuples qui l'ont transmis à déclaré François. Au cours de l'audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour la cause des saints, le Saint-Père a autorisé la promulgation des décrets concernant le miracle attribué à l'intercession de la bienheureuse Elena Guerra, fondatrice de la congrégation des Oblats du Saint-Esprit, le martyr des serviteurs de Dieu Gaetano Closelas Balvé. Prêtre diocésain Antonio Tors Rexax, laïque et père de famille. Les vertus héroïques de la servante de Dieu Teresa Lafranco, religieuse de la Congrégation des Filles de Sainte Mère de Luca. Dans la matinée de vendredi 12 avril, le pape François a reçu les membres de la Fondation papale, une fondation qui soutient divers projets éducatifs, caritatifs et apostoliques dans le monde à l'occasion de leur pèlerinage annuel à Rome. En les invitant à toujours rayonner de la joie pascale et s'engager davantage au service des nécessiteux, le Saint-Père leur a rappelé qu'un tel engagement dans une époque marquée par l'individualisme et l'indifférence est nécessaire pour témoigner plus efficacement de l'Évangile. Les exhortant à persévérer dans la prière afin de devenir progressivement un seul cœur et une seule âme, tant avec Jésus qu'avec les autres. Jeudi, le pape a inauguré à Saint-Jean-Marie Vianney à Rome l'école de prière avec des enfants préparant leur première communion à l'occasion de l'année de la prière en vue du jubilé. Pendant une heure, enfants et parents ont échangé sur les thèmes de la vie et de la mort, de l'importance de prier et de toujours dire merci même dans des moments sombres. Toujours jeudi, en recevant les membres de l'Assemblée plénière de l'Académie pontificale des sciences sociales qui réfléchissent à une nouvelle culture de l'inclusion des personnes porteuses de handicaps, le Saint-Père a salué les efforts pour mieux les inclure au sein des sociétés et fustiger la culture du déchet qui les rejette et qui est encore bien présente à travers le monde. Dans sa catéchèse mercredi sur les vices et les vertus lors de l'audience générale, le pape s'était penché sur la force d'âme, une victoire contre nous-mêmes. Cette vertu fondamentale, selon lui, prend au sérieux le défi du mal dans le monde et nous fait réagir face aux guerres, violences, esclavages, oppressions des pauvres et blessures qui saignent encore.
Après la semaine du pape, signalons que samedi 13 avril à 18h heure de Rome et pour marquer le 40e anniversaire du premier rassemblement de jeunes sur la place Saint-Pierre le 14 avril 1984, a lieu une procession avec la croix de la jeunesse partant de la place Saint-Pierre en direction du Centre international de la jeunesse San Lorenzo. À 19h, le cardinal Tolentino de Mendonça y préside la Sainte Eucharistie. la journée se termine par une veillée de prière et l'adoration de la croix, née de la volonté du pape Jean-Paul II qu'il a inauguré le 13 mars 1983, le Centre international de la jeunesse San Lorenzo est pour tous les jeunes un lieu d'accueil et de prière. Confié d'abord au Conseil pontifical pour les laïcs et aujourd'hui au dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, ce centre garde la croix des jeunes et constitue un point de référence pour les jeunes pèlerins de Rome, un lieu de formation et un lieu privilégié pour la préparation des Journées mondiales de la jeunesse. Rendons-nous au Kenya pour parler des conclusions du séminaire de Nairobi promu par le dicastère pour le dialogue interreligieux. Le message publié à l'issue de ce séminaire consultatif autour du thème « Le christianisme en dialogue avec l'islam et les religions traditionnelles africaines, défis et opportunités » qui s'est tenu à Nairobi les 9 et 10 avril souligne combien la religion ne doit pas être instrumentalisée pour alimenter des conflits. L'événement a vu la participation de représentants des commissions pour le dialogue interreligieux en Afrique et à Madagascar en provenance de divers pays. Nous sommes préoccupés par la polarisation croissante, les tensions, les conflits et la radicalisation religieuse dans certains pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, qui peuvent être attribués à divers facteurs, notamment socio-économiques et politiques. Cette situation s'aggrave lorsque certains individus et groupes instrumentalisent la religion, indique le document de conclusion. En République démocratique du Congo, l'évêque de Kolé, Mgr Emery Kibal, est attendu à la paroisse Saint-Jean de la localité Kolé-Yango, où il entend célébrer une messe dans le temps pascal le dimanche 21 avril. Les détails avec Jean-Baptiste Malenge Kalunzu.
Au départ, l'évêque avait prévu d'inaugurer la semaine sainte dans ce village, mais la violence l'avait obligé à y renoncer.
Une bande de délinquants assimilables à une milice, visiblement acquise à la cause d'un candidat malheureux aux dernières élections législatives, s'est illustrée dans des tapages nocturnes, troublant ainsi l'ordre public et scandant des chants d'incitation à la haine et à la révolte contre l'évêque de Kolé que je suis, accusant faussement l'évêque d'avoir milité à l'échec de leur leader politique. Le curé de la paroisse Saint-Jean a été molesté par ces hors-la-loi.
Des jeunes avaient vandalisé l'église et pillé le presbytère. D'autres actes d'insécurité avaient déjà marqué cette paroisse Saint-Jean de Kolé-Yango. Mais pour l'instant, tout va bien.
Et d'ailleurs, j'ai reçu en audience en date du 2 avril courant une délégation du conseil paroissial de Saint-Jean qui est venu présenter des excuses au nom de la communauté et à l'occasion a sollicité une visite pastorale de leur évêque dans les tout prochains jours.
Et ce jour sera le dimanche 21 avril. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Union africaine a appelé samedi le régime militaire au pouvoir au Mali à travailler à une feuille de route visant à achever le processus de transition dans le pays où la perspective d'élection en vue d'un retour à un pouvoir civil a été repoussée sine die. Le premier ministre malien Choguel Kolkala Maïga, nommé par les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, a annoncé jeudi soir que des élections ne seront organisées qu'une fois que le pays, confronté à une grande crise sécuritaire, serait définitivement stabilisé. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé vendredi que le Nigeria était devenu le premier pays au monde à introduire un nouveau vaccin contre la méningite, le MEN-5CV. La méningite est un ennemi ancien et mortel, mais ce nouveau vaccin pourrait changer le cours de la maladie en empêchant de nouvelles épidémies et en sauvant de nombreuses vies, a déclaré le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nouveau vaccin révolutionnaire offre une protection puissante contre les 5 principales souches de bactéries méningocoques en une seule injection. Les forces de l'ordre togolaises ont empêché vendredi la tenue d'une manifestation de l'opposition à Lomé contre le projet de nouvelle constitution. les partis de l'opposition et un groupe de la société civile avaient appelé la population à sortir massivement dans les rues de la capitale togolaise vendredi et samedi, malgré l'interdiction des autorités. Pourtant, dans le pays, les manifestations de rue sont interdites depuis 2022 après une attaque au grand marché de Lomé au cours de laquelle un gendarme a été tué. Le père jésuite Antoine Kerruel nous introduit à la méditation avec les lectures du troisième dimanche du temps pascal.
La paix soit avec vous, dit Jésus aux apôtres, bouleversés par la rumeur de la résurrection qui a déjà retenti à leurs oreilles. En ce temps de Pâques, combien de fois entendons-nous dans la liturgie cet appel à nous ouvrir à cette paix offerte par le ressuscité? Cet appel, ainsi que l'exhortation à ne pas avoir peur, nous incite à l'ouverture à l'expérience de la résurrection. Comme ces invitations rejoignent notre actualité, nous sentons tous, ou pressentons tous, la violence qui règne dans le monde, parfois loin de nous, parfois tout près de nous, et parfois en nous. Nous voyons tous des images insoutenables de sauvages exactions. Et nous recueillons parfois des témoignages d'hommes et de femmes fuyant la barbarie. C'est bien dans ce contexte que nous sommes invités, depuis 3 semaines maintenant, à nous ouvrir à la résurrection. Les apôtres sont des hommes concrets. Ils ont besoin de voir les plaies de Jésus et de le regarder se restaurer pour ouvrir leur cœur à l'intelligence des Écritures. Le Christ attendu par Israël est un roi de gloire, mais pas un roi de gloire comme tous l'imaginaient, c'est-à-dire un souverain entouré d'un faste éblouissant. Personne n'a vu la résurrection, comme nous le rappelle l'art des églises d'Orient qui se garde de représenter l'événement de la résurrection. Cependant, comme les disciples, nous pouvons nous ouvrir à la résurrection alors que nous accueillons le signe de la fraction du pain et que nous lisons les Écritures avec un œil neuf. Le roi de gloire est celui qui ne conserve rien pour lui, qui se donne totalement, pour nous libérer de toutes les formes de nos connivences avec la violence et avec la mort, pour nous sauver de la morsure du péché. Jésus-Christ, le juste, est, comme le dit saint Jean dans la lecture de ce dimanche, un défenseur. Il l'est à cause de la radicalité du don qu'il fait de lui-même à tout être humain. Mesurons-nous bien les conséquences de cette affirmation. Nos sociétés ne sont guère disposées à se construire sur l'expérience du don reçu et offert. Elles se développent plutôt sur l'aspiration à faire valoir d'inextinguibles créances, bien différentes de la logique du don total, qui passe par la renonciation à revendiquer quoi que ce soit pour soi-même, jusqu'à la renonciation à revendiquer un rang. En perspective chrétienne, il en va ainsi parce que le seul vrai rang de tout être humain est celui de fils et fille de Dieu. Il s'agit là d'un rang qui se situe au-delà ou en deçà de notre fascination pour quelque statut à acquérir. Cela, c'est l'itinéraire de Jésus, tel qu'il se donne à découvrir dans les évangiles, qui nous l'apprend. Cela, c'est aussi ce que nous apprend l'histoire de Dieu avec Israël, son peuple, tel qu'elle nous est rapportée au fil de la Bible. Comment donc serons-nous des témoins de la résurrection dans le monde d'aujourd'hui ? En nous laissant travailler par l'expérience du don, vécu au quotidien, malgré toutes les barrières structurelles et personnelles que nous érigeons pour rendre impraticable ce chemin de vie. Nous avons pourtant des exemples autour de nous. Pensons aux hommes et aux femmes dont l'Église a reconnu la sainteté, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles ont accepté que leur vie soit renouvelée par le crucifié ressuscité. Pensons aussi à ces témoins non connus du grand public, mais que nous avons pu rencontrer dans nos familles, parmi nos amis et connaissances, alors que nous les voyons ne rien garder pour eux-mêmes, afin de susciter plus de vie autour d'eux. Puissent nos yeux s'ouvrir pour reconnaître la résurrection à l'œuvre autour de nous, et puissent nos cœurs s'ouvrir à la résurrection à l'œuvre en nous, pour peu que nous suivions Jésus sur le chemin du don total, du pardon.
Invité du jour.
Notre invité du jour est M. Abou Kamaté, directeur général du MASA, le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Avec lui, nous parlons de l'édition 2024 qui a lieu du 13 au 20 avril dans Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire.
Nous souhaitons que ce soit un lieu où les acheteurs et les artistes africains peuvent se rencontrer pour faire des affaires.
Quels sont les principaux objectifs du MASA?
Les principaux objectifs, dans un premier temps, c'est effectivement aider à la structuration du secteur du spectacle vivant en Afrique. Donc, créer aussi donc un cadre de commercialisation, donc de rencontre entre les créateurs et les acheteurs et programmateurs. Mais aussi, c'est l'objectif du renforcement donc des capacités des opérateurs culturels africains.
Quel est l'objectif de cette édition 2024?
Objectif particulier, c'est d'être un espace de visibilité très fort pour les artistes jeunes du continent. Donc ça, c'est un des objectifs forts que nous avons. Nous souhaitons aussi que ce soit l'édition où nous atteignons un volume important donc des contrats signés. Donc on a aussi donc cela comme objectif. Et puis, on souhaite comme objectif que le MASA soit aussi d'espace de promotion de la création féminine, raison pour laquelle nous avons d'ailleurs créé un prix féminin qui va porter le nom de la grande chancelière honorée de Côte d'Ivoire.
Quel est le thème de la présente édition?
Le thème, donc, c'est jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Et donc, c'est justement pour cela que je vous parlais donc, des 7 objectifs qui est de viser et donc, la jeunesse. Tant en termes de création, mais que d'accès aussi à la création artistique.
Le nombre de participants?
Nous avons aujourd'hui 1000 artistes qui sont annoncés de 33 pays dans différentes disciplines, que sont la musique, le théâtre, le conte, la danse, le slam, l'humour, le cirque et les arts de la rue. Et donc voilà, c'est à peu près 800 artistes qui vont se retrouver, dont certains sont d'ailleurs à leur première arrivée en Côte d'Ivoire. Je citerai par exemple l'Arménie.
Alors, nous avons le MASA Marché et le MASA Festival. Quelle est la différence?
Le MASA Marché, c'est vraiment là où nous souhaitons que le business se fasse. Donc, c'est une sélection particulière qui se fait donc par la mise en place d'un comité artistique international. Alors donc c'est 21 experts de 19 pays qui se retrouvent pour choisir les groupes qui participent donc au MASA marché. Ceux-là donc ont une programmation que nous suivons particulièrement parce que nous souhaitons que ces groupes-là puissent être mis vraiment en lumière de sorte que les acheteurs puissent conclure le maximum donc de contrats avec eux. Le MASA Festival, celui-là, il cible prioritairement les groupes non africains, sachant que le MASA Marché va cibler donc les groupes africains et de la diaspora, donc exclusivement ceux-là, parce qu'on veut être vraiment cet espace qui leur est réservé. Et le MASA Festival nous permet donc de donner une connotation internationale, c'est-à-dire hors Afrique, à notre programmation.
Une idée du programme?
Le programme, il commence donc le samedi 13 par la cérémonie d'ouverture. Et puis, le lendemain, nous enchaînons avec les rencontres professionnelles, comme tous les jours d'ailleurs, à partir du dimanche 14, de 9h à 13h, les rencontres professionnelles et les spectacles qui commencent donc les après-midi. Une semaine de festival, une semaine de programmation, une semaine de rencontres, une semaine de formation, une semaine d'échanges pour le public et pour les artistes, sans oublier évidemment les professionnels et les acheteurs que nous invitons également.
Quelles sont vos attentes pour cette édition?
Nous souhaitons donc que le MASA s'inscrive cette dynamique de mobilisation des Ivoiriens pour montrer donc à nos artistes invités et au monde entier notre capacité à être là où il faut. Et puis, un appel aux acheteurs qui sont là. Nous souhaitons qu'ils puissent repartir avec le maximum donc de dates pour les artistes que nous avons invités parce que l'objectif du MASA, c'est aussi de montrer que la culture peut être un secteur de développement, un outil de développement et que les artistes peuvent dignement vivre de leur art en Afrique.
Propos recueillis par Françoise Niamnia.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus. Jesus Christus.